U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Vandaag hebben we de eer om Françoise Tulkens, professor en rechter, in onze studio te verwelkomen. Als expert strafrecht en mensenrechten doseerde ze jarenlang aan de Universiteit Catholique de Louvain. Mevrouw Tulkens zetelde ook bijna 14 jaar in het belangrijkste Europees Mensenrechtenhof, waar ze zelfs vicevoorzitter werd. De lijst van publicaties, prijzen en eredoctoraten is te lang om op te noemen. Tegenwoordig zet ze zich specifiek in voor vrouwenrechten en als voorzitter van de kunstwijk Cartier des Arts ook voor de oprichting van een cartoonmuseum in Brussel. Welkom, mevrouw Tulkens.
Bonjour. En bedankt voor uw uitnodiging. Ja.
Mevrouw Tulkens, u koos voor ons een artikel uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wil u dat artikel even voorlezen, alstublieft?
Oui, avec plaisir. Évidemment, j'ai choisi un article de la Convention des droits de l'homme, puisque c'est cette convention que j'ai eu l'honneur, c'est un honneur assez redoutable, de servir pendant presque 14 ans. Alors cet article, je vais le lire, il est tout petit, je n'ai même pas besoin de le lire, je le connais par cœur. « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 3 de la Convention. Pour moi, c'est un article fondamental. D'abord, c'est un article absolu. Aucune dérogation, aucune limitation, aucune exception. Même en cas de danger grave, même en cas de guerre, même en cas de situation qui porte atteinte à la sûreté de l'État, aucune exception. Donc c'est un droit absolu. Et en français, on dit que c'est un droit indérogeable.
Dus u koos voor een kort, maar wel bijzonder krachtig artikel. Er is dus geen enkele uitzondering denkbaar op het verbod op foltering en het verbod op onmenselijke en mensonterende behandelingen. Wat moeten wij ons voorstellen bij die concepten foltering en onmenselijke behandeling? Want ik denk spontaan aan de martelkamer van het Gravensteen in Gent als ik het woord foltering hoor. Maar u denkt waarschijnlijk, of de Europese staten dachten aan andere situaties. Hè?
Évidemment, la torture, les traitements inhumains et les traitements dégradants, c'est un continuum. La torture, je dirais, c'est les atteintes à l'intégrité physique les plus graves. Et dans la jurisprudence de la Cour et dans tous les cas que nous avons eus, parce que tous ces cas arrivent à la Cour. Mais on voit effectivement des situations d'atteinte à l'intégrité des personnes qui sont mais inimaginables. Les traitements inhumains, c'est vraiment... Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'un et l'autre. C'est un peu une différence, non pas de nature, mais de degré. Les traitements inhumains, c'est vraiment des traitements qui humilient l'individu. Qui l'humilie physiquement, psychologiquement, les traitements dégradants, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. C'est tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique. À l'intégrité physique, à l'intégrité morale, à l'intégrité psychique, à l'intégrité morale, à l'intégrité intellectuelle. Et c'est pour ça que cet article, pour moi, est tellement important. Alors, bien sûr, vous allez dire le droit à la vie, c'est encore plus important. Mais la torture, c'est vraiment ce qui rassemble tout. Ce qui rassemble toute cette atteinte sur les personnes et au fond porte atteinte à leur dignité.
Hebt u daar concrete voorbeelden van? Waaraan moeten wij denken?
Vous savez, c'est pour ça que cet article, je voulais vraiment le prendre lorsqu'on en a parlé entre nous, parce que c'est un article qu'on utilise, comme on dit, par ricochet, dans toute une série de situations. Dans toute une série de situations, que ce soit la situation de privation de liberté, ça c'est la situation évidemment la plus classique, hélas malheureusement, parce que les personnes qui sont en garde à vue devant le commissariat de police ou en prison, ce sont des lieux évidemment de pouvoir, de privation de liberté, où la tentation de la torture est toujours présente. Et je dis ça sans aucune critique par rapport à tous ceux qui exercent ce métier. Ce sont des lieux qui par nature permettent ou autorise ou engage un risque d'excès de pouvoir. Puis on le voit aussi, alors, par rapport à d'autres situations, on ne peut pas refouler des personnes, on ne peut pas les renvoyer dans d'autres pays, dans tout le domaine de la migration, si elles risquent là-bas d'avoir un traitement inhumain et dégradant. Donc c'est un article qui, vraiment, on utilise par ricochet dans toute une série de situations et que l'on peut développer. Moi, par exemple, vous allez peut-être dire que j'exagère, mais je me dis souvent que la situation de pauvreté, qui est tellement importante dans nos pays, mais dans la précarité, de tous. Et la crise que l'on connaît s'est encore exacerbée par rapport aux détenus, par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes. Eh bien, la grande pauvreté qui est la nôtre, à un moment donné, je me dis qu'un jour, un avocat très imaginatif et très courageux va faire une requête devant la cour et dire, eh bien ça, c'est un traitement inhumain et dégradant. On ne peut pas laisser des personnes vivre dans une situation de précarité absolue.
En dus u denkt ook dat de toepassing ervan evolueert in de tijd, want bij het schrijven van het verdrag hadden de mensen misschien voornamelijk ook de wantoestanden van de Tweede Wereldoorlog in gedachten, waar mensen in concentratiekampen volledig hun menselijkheid, hun menselijke waardigheid verloren hebben. De hardste aanslag bijna ooit op het mens zijn. En u spreekt nu over moderne fenomenen, dus dat is eigenlijk een evolutie, maar geen verwatering.
Non, certainement pas, mais votre question est excellente, parce que c'est sûr que cette convention, elle a été élaborée en 1950, on le sait, au lendemain de la guerre, au lendemain de cette seconde guerre mondiale qui nous a quand même qui a confronté tous les pays à l'horreur absolue. Alors après la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, il fallait... L'idée des fondateurs du Conseil de l'Europe et de la Convention, c'est d'introduire ça au niveau de l'Europe, de fonder l'Europe sur les droits fondamentaux, sur les démocraties et sur l'état de droit. Mais c'est évident que cette disposition était une réponse immédiate à ces horreurs absolues de la guerre. Bon, je ne l'ai pas vu et vous non plus, mais je ne voulais par exemple pas vivre la fin du XXe siècle sans aller voir ces camps de concentration. Et donc je l'ai fait. En 1999, j'ai été sur place. J'ai été à Auschwitz, j'ai été à Dachau, j'ai été à Buchenwald. J'allais dire, on ne voit plus que des... Mais rien que pour se rendre compte que comment cette convention, on dit toujours la Convention des droits de l'homme, elle est née à Rome. Mais non, elle est née à Dachau, elle est née à Buchenwald, elle est née là. Et donc c'est tellement... la réponse à ça est tellement forte, la torture, les traitements inhumains et dégradants qui privent les personnes de la dignité d'être un homme ou d'une femme, bien sûr, parce qu'à l'époque on ne parlait que des hommes. C'est ce que Hannah Arendt dit, la dignité d'être un homme. C'est pour ça que cette disposition écrite en 1950, c'est ça le génie pour moi de la Convention, même si certains se sont très réticentes, ça, ou ne sont pas contents, c'est de pouvoir l'appliquer aujourd'hui alors que les situations de torture, de traitements inhumains, de tout ce qui porte atteinte à la dignité prennent d'autres formes. Et donc, c'est grâce à le fait qu'il y a la Cour, eh bien, on interprète ces droits. Et aujourd'hui, ils doivent avoir un sens de notre réalité présente. Alors, la migration, pour moi, c'est un phénomène tellement important. Eh bien, c'est au cœur de... Ça évolue. Ça doit évoluer.
Ik begrijp dat artikel 3 breed inzetbaar is in allerlei situaties, van gaande van migratie tot mensen die leven in armoede, gedetineerden... arrestaties en zo verder. En ook dat het artikel mee evolueert met de tijden waarin we leven. Ik vroeg me af, wat was voor u nu de precieze aanleiding om dit artikel uit te kiezen?
Donc vous me posez la question de savoir pourquoi j'ai choisi cet article. Eh bien, je vous dis que j'ai choisi cet article parce que c'est la question de la torture qui, lorsque j'étais toute jeune, quand j'avais 16-17 ans et qu'on décide quelles études on va faire, c'est la question de la torture en Algérie qui m'a tout à fait impressionnée. J'étais toute jeune, j'étais encore en humanité, et je ne sais pas comment je me suis trouvée dans une réunion d'avocats belges et français qui défendaient toute une série de personnes qui demandaient l'indépendance de l'Algérie, des FLN, d'autres. Et à ce moment-là, cette Erfahrung pour moi est restée vraiment très très forte. Il dénonçait la torture. La torture était le mode de répression, était le mode de répression des opposants. Tout le monde le niait, les autorités françaises, tout le monde le niait, ses avocats, au péril de leur vie. Ils expliquaient que la torture était là pour... Alors, on connaît maintenant tous ces noms. Pourquoi c'est ça qui m'a amené à dire je voulais faire d'autres études. Je me dis non, je vais faire le droit, je veux être avocat de la défense, que je n'ai pas été très longtemps, mais peu importe. Mais la question de la torture, qui est quand même l'atteinte la plus forte à une personne, ça m'a vraiment bouleversée à ce moment-là et j'étais vraiment un teenager. Et donc voilà, c'est comme ça que j'étais dans le droit. Et alors, ce qui est évidemment pour moi terrible et en même temps... C'est toute une leçon de vie, c'est que quand j'étais déjà à Strasbourg, j'entends à la radio française, puisque voilà, qu'un général français au Sarès disait tout d'un coup, c'était au début des années 2000, il disait, mais évidemment qu'on torturait, c'est sûr. Et aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. Maurice Audin, qui est un jeune professeur de mathématiques qui avait été enlevé de sa famille. Puis on a dit, ben non, il s'est suicidé. Mais non, il a été torturé à mort. Et donc maintenant, tout le monde le reconnaît. Donc 40 ans plus tard, ça devient une évidence. Alors, je ne veux pas revenir en arrière, parce que pour vous, c'est... Mais il faut simplement dire qu'aujourd'hui, les choses qui se paraissent inacceptables, eh bien, dans 10, 20 ou 30 ans, et vous le connaîtrez, enfin, tous les gens de votre génération, vous verrez que vous avez peut-être raison de ne pas l'accepter.
Ja, absoluut, want die wantoestanden lijken niet enkel uit een lang verleden. Hè. Als we nu zaken lezen, arresten die het hof waar u zetelde uitsprak tegen zeg maar, de meer herhaalde foutenmakers, om het zo te zeggen, zoals Turkije en Rusland, die toch zeer vaak met dergelijke arresten geconfronteerd worden. En die lijken dat misschien gewoon naast zich neer te leggen. Krijgt u, zakt de moed u dan niet in de schoenen?
Ja, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Vous parlez de la Turquie. Il y a 15 jours, il y a eu un tribunal d'opinion sur la question de la Turquie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et une des questions qui était posée, c'est par rapport aux opposants. Est-ce que les opposants en Turquie ne sont pas l'objet, pour l'instant, de tortures, de traitements inhumains et dégradants dans toutes ces personnes disparaissent, on ne sait pas où elles sont. Il y a toute une série de situations qui, aujourd'hui, au moment où on parle, existent en Russie aussi, dans d'autres pays aussi. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que ces États acceptent qu'il y ait un contrôle de l'extérieur pour arrêter cette situation qui est dramatique.
Want wat is de kracht, wat is de slagkracht van zo'n hoog rechtscollege zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens? Want er zijn landen die ook in de Europese Unie gewoon die arresten naast zich neerleggen.
Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande question. Les droits humains aujourd'hui sont en turbulence. Ça, c'est une évidence. Ils sont en difficulté. On voit ça un peu partout, on voit ça dans différents pays. Je ne vais pas toujours venir avec les mêmes pays qu'on connaît, la Pologne, la Hongrie. Mais par rapport aux droits humains et aux droits de la Convention, on sait tous que lorsque les États ratifient la Convention, signent, ratifient, ils s'engagent aussi à mettre en œuvre les arrêts de la Cour. Ça, c'est une obligation. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'avais entendu, toujours en France, je n'ai rien contre les Français, mais j'entendais, lorsqu'il y a eu un premier arrêt de la nouvelle Cour des droits de l'homme en 98, venait d'arriver, et il y avait un arrêt qui, contre la France, ça, c'était la situation d'un trafiquant de drogue qui a fait l'objet d'actes qui ont été qualifiés par la cour de torture dans un commissariat de police pour le faire avouer. Ça, c'est la torture la plupart du temps dans le domaine de justice pénale, c'est pour faire avouer, quoi. Et alors j'entendais à la radio le ministre de l'Intérieur qui disait « Oui, mais c'est pas grave, c'est pas obligatoire les arrêts de la cour ». Je me dis, ouh, alors là, il va retourner en première année à l'université, celui-là, de dire que ce n'était pas obligatoire. Et bien maintenant, malheureusement, beaucoup de pays ne veulent plus les droits, ne veulent plus un compte. D'abord, ils ne veulent plus les droits humains. Ils ne veulent plus le contrôle externe de la Cour, parce que la Cour, c'est un contrôle externe. Nous, on n'est pas mieux que la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle. On est un contrôle externe pour assurer la force des droits fondamentaux. Mais si les États ne mettent plus en œuvre les arrêts de la Cour, c'est la fin.
Want politici zeggen vaak, we hebben een tekst goedgekeurd. Maar wat die rechters daar later van maken... Want u vertelt net, artikel 3 is kort en krachtig. Ja. Maar wanneer politici zo'n en landen zo'n verdrag afsluiten, dan weten zij niet wat rechters op welke toepassingen rechters daar later zullen van maken. Hè? Want u spreekt nu bijvoorbeeld over strijd tegen armoede, maar mochten politici dat op vandaag weten, zouden ze misschien zo'n verdrag niet meer afsluiten.
Hè? Oui, je comprends bien votre objection. Les droits humains et ceux de la Convention, ils sont faits pour suivre les évolutions sociales et politiques. Sinon, ce sont des manuscrits de la mer morte. Vous imaginez, si on doit prendre ces textes exactement dans le contexte des années 50, eh bien on n'aurait jamais eu, par exemple, les arrêts sur l'égalité homme-femme. On n'aurait jamais eu les arrêts, là vous allez dire, certains vont dire qu'il valait mieux qu'ils ne fassent pas ces arrêts-là, sur les changements de sexe. Moi je me rappelle quand on a eu à la Cour les arrêts sur les changements de sexe, ou des personnes en Angleterre qui avaient fait des opérations qui sont extrêmement douloureuse. Hein. C'est pas une blague, changer de sexe. C'est vraiment une souffrance pour ces personnes. Il faut le prendre quand même tel quel. Lorsque la Cour a dit, si au terme des opérations qui sont irréversibles, une femme devient un homme et un homme devient une femme, on doit leur accepter le respect de la vie privée et même le droit au mariage. Alors, évidemment, en 1950, personne ne pensait à ça. La surveillance de masse, les écoutes téléphoniques. C'est ça la force de la Convention des droits de l'homme, c'est que par l'interprétation de ces droits par la Cour, on fait en sorte qu'ils ne sont pas des manuscrits de la mer morte que l'on met dans une belle vitrine, mais ce sont des instruments qui peuvent suivre l'évolution de nos sociétés.
Wat kan een verdrag zoals het Europees Mensenrechtenverdrag en specifiek dit artikel 3 betekenen in extreem gevoelige politieke debatten zoals de migratiecrisis? We lezen vandaag in de krant over illegale pushbacks. Speelt artikel 3 van het EVRM daarin een rol?
Oui, parce que il faut partir de cette chose toute évidente, toute simple, c'est que l'article 3 de la Convention interdit à un pays, que ce soit la Belgique, la France, l'Allemagne, de renvoyer des personnes dans des pays où on peut, avec une grande certitude, on n'est jamais tout à fait certain, mais avec une grande probabilité, penser qu'ils vont être soumis à la torture, ils vont disparaître tout simplement, ou bien ils vont être soumis à des traitements inhumains et dégradants. On a eu énormément de requêtes là-dessus, énormément, et notamment dans le contexte du terrorisme. Dans le contexte du terrorisme, où il y a eu une affaire qui était quand même extrêmement significative, où ça s'appelle l'affaire, je ne sais plus, ça est dit contre, peu importe le nom parce que ça on oublie, mais c'était une affaire cette fois-ci contre l'Italie, et beaucoup d'États qui font partie de la Convention étaient venus au secours de l'Italie pour dire oh non, on doit accepter qu'on renvoie cette personne en Tunisie ou en Algérie, en Tunisie. Et or, il faisait savoir que là, il allait certainement être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants parce qu'il était supposé terroriste. Et donc, la Cour a été un moment très, très bouillant de moment. Et c'était vraiment un moment donné extrêmement délicat parce que tous ces États disaient non, vous devez changer, on ne peut plus accepter ça, le terrorisme est la menace suprême. Eh bien, on ne peut pas empêcher que les États se débarrassent tout simplement. Et la Cour a tenu bon. La Cour a tenu bon et elle a dit non, on ne peut pas les renvoyer si on est sûr de cela. Mais alors, il y a une affaire qui était encore presque plus dramatique parce que c'était un bateau de migrants, parce que, entre nous, mais ça on n'a pas évoqué, mais les migrants qui peuvent venir demander l'asile dans les pays, ils ont toujours ces chemins qui sont des chemins de mort, hein, disons-le. Ils doivent traverser la Méditerranée, ils doivent aller rêver dans les Balkans. Eh bien ici, c'était un bateau de migrants qui partait de la Libye pour aller à bateau, hein, un radeau, hein, c'est pas vraiment un bateau, hein, c'est pas une croisière, pour aller jusqu'en Italie. Et là, les Italiens sont rentrés dans le bateau en cours de route, et plutôt que de leur permettre d'arriver en Italie pour déposer une demande d'asile, et puis on verra ce que ça va donner, ils l'ont de suite renvoyé en Libye. Et là, la Cour, pour la première fois, a dit non, on ne peut pas, il faut laisser aux personnes la possibilité au moins d'introduire une demande d'asile. Et donc là, cet arrêt ici contre... c'est un arrêt dans lequel je ne vais pas maintenant entrer dans la politique, mais le livre que notre secrétaire d'État Franken a consacré à l'immigration, il a évidemment critiqué férocement cet arrêt en disant « c'est la seule mesure efficace, c'est d'éviter qu'il n'arrive ». Et donc, et là, la Cour a tenu bon.
Wat mij opvalt is dat in het principiële arrest over die pushbacks, eigenlijk was dat een unanieme uitspraak. Dus de rechters uit de verschillende verdragssluitende staten, die waren op één lijn. Dus we zouden kunnen zeggen, ja, de meer westerse progressieve rechters zijn daarvoor en de meer conservatieve zijn daartegen. Merkt u dan ook tijdens het beraad dat die rechters die ook uit die landen komen waar het over gaat, eigenlijk toch dezelfde ideeën delen? Of is er daar ook een clash van ideeën?
Ja, een clash d'idées, ça c'est certain. Ça, c'est certain, il y a un clash d'idées, ça oui. Ça oui, vous l'avez dit, si les juges qui viennent de ces pays-là, non, parce que non. Les juges sont en principe indépendants, hein, faut pas oublier, donc ils ne sont pas là du tout pour défendre le pays ou défendre les politiques du pays. Je dirais tous les juges, les 47 juges qui font partie de la Cour, parce que c'est 47, hein, on ne juge pas à 47, hein, on juge à 7 ou à 17 dans des formations plus restreintes, mais je dirais, on applique tous la Convention. Et donc, évidemment, ça j'ai vu souvent que lorsqu'il y avait des opinions dissidentes, bon, le juge, il peut exprimer Et il est obligé de le faire. Lorsque le juge n'est pas d'accord, il ne peut pas simplement bougonner dans son coin et dire que tous les autres n'ont rien compris. Non, il faut y aller, il faut écrire. Moi, ça m'est arrivé parfois, j'étais pas tout à fait au point. Et puis alors, la seconde version est arrivée. Et puis j'ai commencé à écrire l'opinion dissidente et j'ai vu qu'au fond, je n'avais pas raison. J'ai vu que je n'avais pas raison. Et en écrivant, parfois on se rend compte que ça ne tient pas la route ce que je fais là. Mes arguments étaient devenus contradictoires.
Als u nu de kans zou hebben om het verdrag te herschrijven, zou u iets veranderen aan het fameuze artikel 3?
Excellente question. Eh bien, ik denk het niet. Pourquoi? Parce que la force de cet arrêt, c'est précisément d'être tout à fait restreint. Donc il n'est pas rentré dans toutes sortes toutes sortes d'analyses. Qu'est-ce que c'est le traitement dégradant? Qu'est-ce que c'est le traitement inhumain? Qu'est-ce que c'est la torture? Une fois qu'on en sert des textes, ou bien qu'on développe des textes en trop on empêche qu'il y ait précisément une interprétation ouverte, évolutive, dynamique, qui permet de faire évoluer un texte en fonction de l'évolution de la situation et des questions qui se posent. Les questions qui se posent, c'est pas les questions qui vont se poser demain, ça sera quoi?
Juristen vervallen vaak in nuances en uitzonderingen, maar vandaag hebben we geleerd dat artikel 3 van het EVRM geen ja maar toelaat. We hadden vandaag wel een uitzonderlijk gesprek à la Belge met mevrouw Tulkens. Heel hartelijk bedankt hiervoor.
Graag gedaan.
Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT en IP Law van de KU Leuven.